Alors, nous allons donc débuter notre débat, question à la justice, avec une avocate et une témoin qui a eu affaire à la justice et qui vous racontera son expérience. Alors, je vous rappelle que c'est un débat semi-public puisque vous pouvez téléphoner, poser vos questions au 40 51 41 023 depuis la Suisse. Et si le téléphone sonne occupé, ne vous déprimez pas, insistez, il y a peut-être des problèmes au niveau du téléphone. Continuez à appeler au 40 51 41 023 depuis la Suisse pour poser des questions à la justice.
Con tutte le sue chiacchiere in risaia ci ha mandato. E noi povere donne ci tocca lavorare per mantenere i ricchi al suo paese passeggiare. E noi povere donne ci tocca lavorare per mantenere i ricchi al suo paese passeggiare. Ci sono dei padroni incoscienti, comandano, bestemmiano con la bava fra i denti, dicendo a queste donne il lavoro non lo son far, dovrebbero far presto come il treno camminare, dicendo a queste donne il lavoro non lo son far, dovrebbero far presto come il treno camminare. Parla del trapianto, è una cosa da spavento. Lor vogliono le file dritte anche se siamo in 200. Se c'è una povera donna che la si sente mal, vanno con rallentamento per portarla all'ospedale. Se c'è una povera donna che la si sente mal, vanno con rallentamento per portarla.
Bonsoir. Donc, ce soir, dans les studios de Radio Pleine Lune, nous accueillons une avocate, Nathalie Vimich, et une squatter. Et nous allons poser quelques questions à la justice. Alors, moi, j'aimerais tout de suite poser une question. C'est un peu comment, qu'est-ce qui a un peu changé ces dernières années dans les procédures de jugement, dans les procédures d'arrestation? Je crois savoir que depuis un ou deux ans, il y a eu quelques modifications au niveau de la procédure de jugement à Genève. Alors, de quoi s'agit-il?
Oui, c'est exact. Le code de procédure pénale a été modifié l'année passée, en réalité, puisque ces modifications sont entrées en vigueur en avril de l'année passée. Et ces modifications portent sur deux points, en fait, du code de procédure pénale. La première de ces modifications consiste dans le fait que le parquet, qui est maître de la poursuite pénale en général, peut, si certaines circonstances se sont remplies, renvoyer directement certaines affaires devant le tribunal de police sans information ou instruction pénale préalable. Ça, c'est un des premiers points de cette modification. L'autre modification, plus importante presque, consiste dans le fait que le juge d'instruction ainsi que le procureur général ont la possibilité, également quand certaines conditions sont remplies, de prononcer des condamnations.
Donc en clair, ça veut dire que si on se fait arrêter, on ne passera pas nécessairement en procès, mais on peut être condamné directement par le juge d'instruction.
C'est exact. Donc le juge d'instruction ou le procureur général.
Donc, il y aura un jugement sans procès, en quelque sorte.
C'est ça. Donc, et sans audience publique, ce qui, dans certains cas, constitue également un avantage. Donc, ça dépend de quel point de vue on se place. Alors, si vous voulez plus de détails sur la façon dont la justice procède à ce niveau-là, donc je ne sais pas si je dois refaire un peu l'historique du fonctionnement habituel ou avant l'entrée en vigueur de ces modifications. Toujours est-il qu'il y a différentes hypothèses possibles. Quand le procureur général ou le ministère public apprend qu'une infraction a été commise. Avant, dans l'ancien système, le scénario était le suivant. Soit le ministère public estimait qu'il s'agissait d'une affaire de très peu de gravité ou qu'il n'y avait pas suffisamment de charges de commission d'une infraction. Et dans ce cas-là, il pouvait classer l'affaire purement et simplement. Soit il estimait qu'il y avait des charges suffisantes de la commission d'une infraction et il mandatait le juge d'instruction donc pour l'information pénale, le juge d'instruction étant chargé, c'est du reste sa fonction naturelle et principale, d'amasser les preuves à charge et à décharge donc contre une personne déterminée. Ensuite, lorsque l'instruction était terminée, le dossier revenait au ministère public qui décidait si oui ou non il fallait renvoyer la personne incriminée en jugement. Il avait la possibilité également à ce stade, donc également après la clôture de l'instruction, de classer l'affaire soit purement et simplement dans les cas de très peu de gravité ou toujours lorsqu'il estimait qu'il n'y avait pas de charge suffisante en fait de la culpabilité d'une personne. Soit il avait une autre possibilité, et c'est intéressant parce qu'en réalité cette possibilité-là, ou plutôt cette hypothèse-là, ne se réalise plus dans la situation actuelle, il avait la possibilité de classer des affaires contre amende. Actuellement, la situation est la suivante. Donc le ministère public a la possibilité de rendre des ordonnances de condamnation avant instruction pénale, s'il estime effectivement qu'une instruction n'est pas nécessaire parce que les faits sont établis ou ne sont pas contestés, ou après instruction pénale, quand le dossier lui est retourné. Je précise quand même, parce que j'en ai pas parlé tout à l'heure, que ces ordonnances de condamnation peuvent être, rendues soit par le juge, soit par le procureur général, lorsque trois hypothèses sont remplies. D'une part, il faut que les faits aient été établis, ce qui est toujours le cas quand les faits sont reconnus ou lorsqu'il y a des flagrants délits qui ne laissent place à aucun doute quant à la culpabilité de la personne. D'autre part, l'ordonnance de condamnation ne rentre en ligne de compte que pour les condamnations qui ne sont pas supérieures à 3 mois d'emprisonnement et ne concernent donc pas les infractions les plus graves, passibles de la réclusion et de la cour d'assises. Enfin, le juge ou le ministère public ne peut pas rendre d'ordonnance de condamnation lorsque la révocation d'un sursis est en jeu, donc lorsqu'une personne a préalablement été condamnée et que se pose, donc lors du deuxième jugement, la question de révoquer le sursis précédent ou pas. Voilà donc les conditions qui doivent être réalisées pour que ces ordonnances soient rendues.
Attends, alors j'aimerais préciser un point. Donc si, par exemple, je suis condamnée avec sursis, que je commets un délit et je passe devant le juge d'instruction, il ne peut plus me condamner d'office par cette
personne. C'est ça, c'est-à-dire que si tu es interpellé pour une nouvelle affaire durant le délai d'épreuve de ton sursis, en fait, puisqu'en général, le sursis correspond à un délai d'épreuve de 2 à 5 ans, là, se pose automatiquement la question de la révocation de ce premier sursis et le juge d'instruction ou le ministère public, peu importe, ne peut pas rendre d'ordonnance de condamnation. Donc, tu seras renvoyé, selon la procédure habituelle, devant la juridiction compétente. En l'occurrence, il s'agit là toujours d'affaires qui relèvent de la compétence du tribunal de police.
J'ai ouvert le journal, j'ai lu, j'ai compris que Ulrike Meinhof avait été assassiné. La città è nera, lei scrive ancora, le vorrei dire, stai attenta che il mondo ti vuole vedere morire. Nella cella foderata, lei guarda su un momento, li riconosce ora. Senza casa, senza figli, senza sposo, col coraggio nelle mani, è una donna senza guardiani, fa paura.
Fa paura. maison, le courage dans la main. C'est une femme qui n'a pas de gardien. Elle fait peur, elle fait peur, elle fait peur. Si vi dico no, si è tolta la vita, dovete sapere ancora da dire. Non voglio, non posso, non voglio, non posso morire. Ulrike Meinhof, assassinata nella Germania, che salva il dollaro, salva le lire, semina ancora l'acciaio, la morte, la tortura. Senza casa, senza figli, senza sposo, col coraggio nelle mani, è una donna senza guardiani.
Bien, donc depuis une année, la justice genevoise possède un nouvel instrument, c'est cette ordonnance de condamnation qui permet aux juges d'instruction de juger des petites affaires, donc des affaires de moins de 3 mois. Alors, bon, moi, c'est un peu étonnant. Moi, ça m'étonne un peu que quelqu'un qui est juge d'instruction, qui à la fois devrait faire l'enquête, puisse à la fois faire l'enquête et juger. Est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire ?
Tout à fait. Donc, c'est une des objections qui avait été soulevée, notamment par les juristes progressistes à l'époque, contre cette ordonnance de condamnation, en tout cas dans la mesure où elle était prononcée par le juge d'instruction. Essentiellement, au regard du fait qu'un des droits fondamentaux de la défense réside précisément dans le fait que le juge qui instruit l'affaire est totalement indépendant et n'a pas à statuer ou à préjuger sur la condamnation qui va être infligée à cette personne. Donc nous étions en fait en tant que juristes progressistes opposés à cette possibilité pour les juges d'instruction et non pas pour le parquet, parce que la problématique n'est pas tout à fait la même. Et le risque aussi, je crois qu'un des principaux risques que nous avions également soulevé à l'époque, consiste dans le fait que le juge, lorsqu'il a la capacité de juger, peut beaucoup plus facilement négocier ou faire pression sur la personne qui se trouve en face de lui pour obtenir des aveux.
Du genre, tu parles, ou sinon je te juge, ou quelque chose
non,
de genre.
Du style, si tu parles, ou si tu reconnais les faits, tu pourras être jugé tout de suite, ou vous pourrez plutôt être jugé tout de suite, et également sortir peut-être plus rapidement, parce que dans les cas où il y a détention, c'est évident que quand le juge a la possibilité de statuer, que la personne ne doit donc pas attendre d'être envoyée en jugement devant le tribunal de police. En général, il y a quand même 2 ou 3 semaines d'attente à partir du moment où un dossier retourne au ministère public. Eh bien, dans cette hypothèse-là, effectivement, la personne peut avoir avantage, en tout cas au niveau immédiat, à reconnaître les faits pour être jugée immédiatement et sortir.
Bien, mais alors comment ça se passe concrètement ? Donc, on est arrêté, on passe un temps à la police, c'est ça ? Combien de temps ?
Ça, oui. Alors, au maximum 24 heures selon la loi.
Mm-hmm. Et puis, alors après, on est déféré devant le juge d'instruction.
Voilà, vous êtes transféré. Si un mandat d'amené est délivré, vous êtes transféré à Chandelon. Et le juge doit, dans les 24 heures suivantes, vous entendre. Il a à ce moment-là soit la possibilité de vous relaxer, soit la possibilité de délivrer ce qu'on appelle le mandat d'arrêt, qui est valable pour une durée de 8 jours. Ensuite, la détention doit être contrôlée par la chambre d'accusation.
Alors, dans le cas des ordonnances de condamnation, est-ce que, par exemple, la détention est contrôlée par la chambre d'accusation ?
Dans la mesure où elle excède de 8 jours, oui. Donc à la, au huitième jour, effectivement, le dossier doit être soumis à la Chambre qui prolonge pour 3 mois ou ne prolonge pas.
Et puis alors, qu'est-ce qui se passe devant ce juge d'instruction qui va juger, qui va à la fois enquêter, juger? Est-ce qu'on a le droit à un avocat?
Comme dans la procédure, enfin, normalement, oui.
Ça veut dire quoi, mais normalement?
Normalement, cela veut dire que pour les petites affaires, le droit à un avocat existe. Du reste, chaque fois qu'une personne est arrêtée, on attire son attention sur le fait qu'elle peut refuser de parler sans la présence d'un avocat, avec le risque quand même, dans ce genre de situation, de voir sa détention prolongée de 2 ou 3 jours. Donc le temps que la personne puisse contacter un avocat ou qu'on lui nomme un avocat d'office et ensuite être entendu sur les faits qu'on lui reproche.
Donc la première audition devant le juge d'instruction, on peut réclamer un avocat, mais dans ce cas-là, ça peut retarder l'histoire.
Ça peut retarder l'histoire, pas nécessairement. Donc si la personne arrêtée connaît le nom d'un avocat, le juge d'instruction alors téléphonera à cet avocat pour voir s'il est disponible. S'il est disponible, effectivement, il peut monter immédiatement à l'instruction. Et dans ce cas, en fait, il n'y a pas de perte de temps. Dans la majorité des cas, les personnes arrêtées ne connaissent pas le nom d'un avocat ou celui-là n'est pas disponible au bon moment. Et par conséquent, effectivement, sa réaudition peut être fixée à un jour ultérieur. Ce qui ne veut pas dire du reste que la détention est maintenue, parce que théoriquement, l'un n'a rien à voir avec l'autre. Mais souvent, lorsque les faits sont contestés, et notamment dans des affaires où de toute façon la détention se justifie par rapport à la loi, du fait qu'on a affaire à un étranger qui n'a pas de domicile fixe à Genève, enfin qui est de passage à Genève, alors dans ces cas-là, effectivement, cela entraîne une prolongation de la détention.
Mais quel va être le travail de l'avocat face à ces ordonnances de condamnation? Parce que de fait, l'avocat arrive, il ne connaît pas nécessairement les faits. Est-ce qu'il va simplement écouter ce qui se dit ou est-ce qu'il va pouvoir vraiment faire un travail d'avocat?
Bon, un travail d'avocat, il ne va pas faire de plaidoirie. Manifestement, s'il ne connaît pas les faits, s'il ne connaît pas le client, il peut difficilement défendre sa cause. L'avocat pourra toujours, sur le moment, attirer l'attention du juge sur le fait, par exemple, que la peine serait excessive ou qu'elle violerait certaines dispositions du droit de fond, du code pénal. Mais c'est vrai qu'à ce stade, l'avocat n'a pas un rôle déterminant.
Donc on peut quand même dire que ce sont des jugements sans véritable droit à la défense.
Si l'on veut. Mais effectivement, d'un point de vue pratique, ça n'a des conséquences d'une gravité que relative, dans la mesure aussi, et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, la personne a toujours la possibilité de faire opposition à cette ordonnance de condamnation, ce qui fait qu'elle sera renvoyée devant la juridiction compétente, en l'occurrence, dans la plupart des cas, le tribunal de police.
C'est-à-dire que si on refuse le jugement porté par le juge d'instruction, automatiquement, on est jugé par un tribunal de police.
Notamment en audience publique, avec les droits de la défense habituels et la possibilité de faire venir des témoins qu'on n'a pas pu faire venir, par exemple, à l'instruction.
En fait, on pourrait dire que c'est en quelque sorte ce qu'il y a en France avec le tribunal des flagrants délits. Est-ce que c'est plus ou moins la même chose?
Approximativement, si ce n'est que dans ce cas-là, le juge peut très bien rendre une ordonnance de condamnation après instruction. Mm-hmm. Donc, il ne le fera pas nécessairement à la première audience. Il peut instruire normalement les faits, libérer la personne si elle a été arrêtée, et puis rendre une ordonnance de condamnation une fois qu'il estime que les faits ont été suffisamment établi. D'autre part, je vous dis, ça se passe à huis clos, en fait. D'un côté, la personne est privée de son droit à être jugée en audience publique. Dans certains cas, c'est plutôt un avantage, parce que ce n'est pas toujours très agréable que de se faire juger devant des journalistes.
Bien, alors justement, on va en arriver là, parce que chaque chose à la fois, c'est...
comporte ses inconvénients.
Ses inconvénients et ses avantages. Alors, soyons positifs, on va commencer par les avantages, qui, je pense, étaient ceux qui ont retenu le choix de ce type de procédure. C'était accélérer un peu la justice.
Voilà, d'une part, un des principaux avantages, c'est celui de la rapidité avec laquelle les décisions peuvent être prises. Et ça, je crois que c'est un avantage, enfin, sur lequel tout le monde s'accorde unanimement. Dans bien des cas de ce type, notamment pour toutes les petites affaires de vol, infraction à la loi sur les stupéfiants, loi sur la circulation routière, les gens très souvent devaient attendre plusieurs mois, voire davantage, avant de passer en audience de jugement, ce qui était effectivement pour le justiciable très désécurisant. Il devait être, ne sachant pas ce qui allait advenir de lui, C'est effectivement un élément qui est corrigé maintenant par le biais de ces ordonnances de condamnation. Un autre élément avantageux, puisque nous sommes dans le domaine des avantages, c'est celui du raccourcissement de la détention dans tous les cas où la détention est due exclusivement au fait que la personne inculpée est étrangère, notamment toutes les infractions qu'on peut reprocher les petites infractions qu'on peut reprocher à un étranger de passage, voire également le simple fait de pénétrer en Suisse alors qu'on est interdit de séjour, étaient auparavant des infractions qui devaient être jugées. La personne n'obtenait pas de mise en liberté provisoire au regard du risque de fuite. Très souvent, ces gens, quand bien même la peine à laquelle ils pouvaient s'attendre était vraisemblablement peu élevée, se voyaient, disons, maintenus en détention pendant plusieurs semaines, donc avant leur passage devant le tribunal de police. Et de ce point de vue-là, effectivement, il y a une amélioration, à savoir les étrangers de passage ici en ville ont avantage à être jugés selon ce procédé. Et puis un des troisièmes avantages, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, c'est celui de l'absence de publicité. Pour certaines personnes, c'est assez important, notamment pour les délinquants primaires. Mmh. Encore que dans les faits, il est vrai, la majorité des affaires qui passent devant le tribunal de police sont publiques, mais cela n'a que des effets relatifs, puisque la plupart du temps, devant le tribunal de police, effectivement, il n'y a pas de journaliste, ce qui n'est pas le cas devant les juridictions plus importantes, la cour correctionnelle et la cour d'assises.
Mais est-ce que tu as, par exemple, une idée sur la diminution réelle du temps de préventif fait par des étrangers? Est-ce que tu as vraiment l'impression que...
Alors, ça peut aller, effectivement.
Cette ordonnance a vraiment été utilisée pour ça?
Moi, je pense que dans la pratique, alors, elle est utilisée pour ça, effectivement. Prenons l'exemple d'un étranger qui commet un vol à l'étalage, qui n'est pas contesté et qui n'est pas incontestable. Ou par exemple, le cas d'un étranger qui rentre en Suisse malgré une interdiction d'entrée. Cet étranger, sous l'ancien système, devait automatiquement donc passer devant un juge d'instruction qui l'inculpait, qui procédait à l'instruction de l'affaire, voire qui entendait les témoins, encore que dans ce genre d'affaires, l'instruction est relativement rapidement terminée. Mais très souvent, la détention de ces gens se situait entre 10 jours et 3 semaines, voire un mois. Du fait que le renvoi devant le tribunal de police prenait toujours un certain temps, et que du fait également que le tribunal de police est souvent surchargé, il fallait attendre quelques jours avant que l'audience de jugement puisse avoir lieu. Maintenant, ces personnes-là, effectivement, sont arrêtées, entendues, et dans la mesure où leur culpabilité ne pose aucun problème ou que les faits sont reconnus, ce qui est souvent le cas des infractions à la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers, ces gens-là sont relâchés en fait lors de leur première comparution devant le juge. Donc le lendemain de leur arrestation.
Donc ça fait quand même... Il y a moins de préventives de ces jeunes.
Il y a moins de préventives, oui. Mais c'est, disons, l'exemple le plus flagrant, c'est dans le cas des... lorsqu'on a affaire à des étrangers, parce que sinon, pour de petites affaires, en principe, la détention préventive ne se justifie pas et la personne a le droit d'obtenir une mise en liberté rapidement.
J'ai jamais connu qu'une école, celle de la cambriole. Mon père était un courant d'air et ma mère une taloche. J'ai pas de plomb aux chevilles, chacun m'appelle l'anguille. Je suis souple et mince et je glisse entre les mains de la police. Pour moi, tous les gens sont pareils, c'est du fric et des poches. Bouclez bien vos grilles, chacun m'appelle l'anguille. Parmi la foule, je me déroule et je ramasse les portefeuilles que je recueille dans ma vieille paillasse. Je sais que c'est un paradoxe, tant pis si c'est pas orthodoxe. Malgré mon surnom de poisson, je m'en vais à la pêche. Planquez votre jonquille, voici venir l'anguille. Sur la promenade, je me balade et je remarque décide, il faut que je l'embarque. Je lui fais comprendre en souplesse que son caractère m'intéresse. Et sitôt qu'il meurt, à la mort sans douceur, je le ferai. Attendez-vous les filles, attention, planquez-vous, j'arrive, c'est moi l'anguille.
Bien, alors on voit que cette ordonnance de condamnation a quelques avantages. Voyons un peu les inconvénients, parce que moi il me semble, comme ça à première vue et sans être spécialiste dans l'histoire, j'ai l'impression que il y avait plein de choses qui étaient classées, parce qu'effectivement on se faisait arrêter pour des petites bricole, et puis le juge d'instruction instruisait, et puis après ça, toute l'histoire était classée, parce que sinon ça aurait trop encombré la police, la justice, et puis maintenant toutes ces petites bricoles, elles arrivent, elles sont jugées. On l'a vu ces derniers temps, il y a eu quand même des cas, entre autres le cas des squatteurs dont on reparlera plus tard, où il y a eu des jugements donnés par le juge d'instruction grâce à cette ordonnance de condamnation, jugement qu'on n'avait jamais vu auparavant.
Donc c'est exact et c'est effectivement, à mon sens, et objectivement, si l'on peut dire, l'inconvénient majeur du système, c'est que un bon nombre de petites affaires qui avant faisaient l'objet d'un classement contre amende, voire d'un classement pur et simple pour des raisons d'encombrement de la justice et du temps qui passe, ou de prescription qui est atteinte par exemple, sont maintenant jugées immédiatement. C'est le cas, selon les renseignements qui m'ont été donnés par un magistrat du parquet, essentiellement, mais je n'ai pas de moyen de le vérifier, cet inconvénient porte essentiellement sur des petites infractions de vol, et notamment de vol à l'étalage. Le vol à l'étalage concerne, paraît-il, principalement les femmes, ce qui fait qu'il semblerait qu'elles en sont les victimes principales. Alors le système avant était le suivant, donc dans ce genre de petites affaires, très souvent avant instruction pénale ou après instruction pénale, le juge, le parquet, estimait que l'affaire n'était pas suffisamment grave pour qu'elle soit renvoyée en jugement et par conséquent convoquait la personne inculpée et prenait une décision de classement contre amende. Très souvent, l'amende était inférieure à 500 francs, donc c'est le montant à partir duquel cette amende est inscrite au casier judiciaire. Et si la personne réglait cette amende soit immédiatement, soit par mensualité régulière, le classement devenait définitif. Actuellement, ce système a totalement disparu. Et dans tous ces cas-là, la pratique passe par l'ordonnance de condamnation et très souvent, l'ordonnance de condamnation est plus sévère que le classement contre amende parce que très souvent ces ordonnances de condamnation prévoient des peines, même si elles sont peu élevées, mais des peines d'emprisonnement ou d'arrêt. Donc avec inscription automatique au casier judiciaire.
C'est-à-dire que maintenant, pour vol à l'étalage, on fait de la prison.
On est condamné à une peine de 2 ou 3 jours d'emprisonnement, j'imagine que c'est la moyenne, donc pour les petits vols à l'étalage. On ne la fait pas nécessairement, mais c'est une peine qui est inscrite au casier judiciaire. Donc en fait, c'est une peine plus grave que la peine d'amende dont je parlais tout à l'heure, en fait. Parce qu'il y a une criminalisation effective de cette composante-là de la population.
Donc en fait, cette ordonnance permet de criminaliser et de juger, enfin de rendre justiciable toute une frange de la population qui avant passait entre les maillons de...
Qui passait en fait entre les gouttes du fait du mauvais fonctionnement de la justice, si l'on peut dire. Effectivement, moi je pense que même dans certains cas peut-être plus graves ou... certaines personnes évitaient l'audience de jugement précisément parce que des mois et des mois s'étaient écoulés avant que le ministère public soit à même de prendre des réquisitions de renvoi en jugement. Donc maintenant, on ne passe plus entre les gouttes à ce niveau-là, ça me semble évident. Donc j'aimerais quand même préciser que selon les renseignements qui m'ont été donnés par le parquet, Il semblerait que le classement pur et simple, donc pour les affaires les moins graves ou lorsqu'il n'existe pas de charge suffisante, continue d'être effectué.
Donc on continue à classer l'affaire, mais moi j'ai l'impression que pour un juge d'instruction qui a ce moyen, s'il voit quelqu'un qui a été pris en flagrant délit, qui reconnaît les faits, c'est difficile de plus le juger.
Enfin, à mon avis, il doit le faire, même.
Je veux dire, les gens qui ont été... Et ça concerne effectivement des délits qui sont pratiqués couramment, que ce soit vol à étalage, que ce soit petit trafic de drogue, que ce soit un cholage avec sur les murs, petits dégâts dans les manifs, squat. C'est ce type-là de criminalité qui est touché par ça.
Qui est, à mon avis, principalement touché, oui. Encore que, bon, en ce qui concerne, par exemple, le barbouillage des murs, le problème des graffitis, il est vrai aussi que le nouveau code pénal y est certainement également pour quelque chose, puisque maintenant la poursuite pour les dégâts à la propriété se fait d'office lorsqu'ils ont eu lieu au cours de manifestations, enfin de réunions violentes. Donc, le nouveau code pénal, par exemple, par rapport à ce type précis d'infraction, rentre aussi en ligne de compte. Mais autrement, à mon avis, effectivement, le petit délinquant subit en premier lieu, si on veut, les frais d'un fonctionnement plus normal et plus satisfaisant de la justice, si on peut dire les choses comme ça.
Quand tu dis qu'il y a encore des classements, est-ce que tu sais, par exemple, est-ce que les statistiques de classement avant et après cette ordonnance de condamnation, est-ce que tu as
une idée ? Donc, je n'ai pas de statistiques avant. J'ai par contre un certain nombre de statistiques qui peuvent nous donner une idée. Parce qu'effectivement, si l'on prend par exemple les ordonnances de condamnation qui ont été rendues par le parquet pour l'année 84, il y en a au total 193. Sur ces 193 ordonnances de condamnation, 10 personnes seulement ont fait opposition. Donc effectivement, il y a peu, dans les faits, il y a peu d'opposition. Peut-être que sur ces 193 cas d'ordonnances de condamnation, la moitié aurait été classée contre amende à l'époque. Ça, je n'ai pas les données pour en parler plus précisément, mais ce n'est pas exclu. Même plus précisément, donc ces ordonnances de condamnation concernent trois types de délits essentiellement, les vols avec dommages à la propriété ou vols à l'étalage, les infractions à la loi sur la circulation routière et les infractions à la loi sur les stupéfiants. Si vous voulez même plus de détails, ces 193 ordonnances de condamnation concernent 166 hommes contre 27 femmes. 9 personnes ont été condamnées aux arrêts, 119 ont été condamnées à des peines d'emprisonnement légères. De toute façon, la loi, à ce niveau-là, l'exige. Et 100 personnes à des peines d'amende. Dans 127 cas sur 93, ces peines ont été assorties du sursis à l'instruction. Donc des chiffres assez importants, en fait, quand même.
Pour une année, donc, tout ça, c'est
pour
une année.
Pour un peu moins d'une année, puisque la loi est rentrée en vigueur en avril 84 et que donc elle a dû commencer à être mise en application en mai-juin de la même année. Pour l'instruction, ces chiffres sont encore plus éloquents. Il y a 449 ordonnances de condamnation qui ont été rendues, pour lesquelles 18 personnes ont fait opposition, également pour le même type de délit, avec en plus l'infraction de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers, qui comporte automatiquement de la détention, et c'est automatiquement donc le juge d'instruction qui va être chargé d'instruire l'affaire. Presque toutes ces ordonnances de condamnation ont été assorties du sursis.
Donc attends, si je résume tes chiffres, il y a environ 700 ordonnances de condamnation en moins d'un an, ça fait plus de 2 par jour, si on compte.
Ça fait pas mal, effectivement.
Le week-end, ouais. Ils ne travaillent pas.
Effectivement. Donc, la proportion de classement possible sous l'ancien système sur ces 700 cas, il faudrait avoir plus d'éléments, disons, pour pouvoir en parler concrètement, mais vraisemblablement, étant donné qu'il s'agit de petits délits quand même, il est possible que la moitié de ces cas eussent fait l'objet éventuellement d'un classement. Mais ça, je ne peux pas le garantir, il faudrait interroger les magistrats qui appliquent la loi. Je n'ai pas suffisamment de données pour en parler, mais ça représente quand même un chiffre qui est important. Et avant, tous ces cas soit étaient classés, soit passés au tribunal de police.
Mais ils pouvaient aussi être acquittés devant le tribunal de police.
Aussi, bien sûr.
Donc, en fait, il y a un taux plus grand de jugement, de jugement.
Bon, l'acquittement, donc je crois que dans tous les cas où l'acquittement est plaidé, ça veut dire d'une part que les faits sont pas reconnus, et qui ne sont pas établies, en fait. Donc, dans la pire des hypothèses, si vous faites l'objet d'une ordonnance de condamnation, quand vous contestez les faits et que vous estimez qu'il n'y a pas de charge suffisante, vous pouvez toujours faire opposition pour plaider l'acquittement devant le tribunal de police. L'acquittement est rare, hein, dans ce genre d'affaires. Ça arrive, mais c'est assez rare.
Mais quand tu dis qu'on peut faire que les faits doivent être reconnus, ils doivent être reconnus par qui, en quelque sorte ? Ils doivent être reconnus
alors,
par
la personne arrêtée.
Alors si moi je dis c'est pas moi, j'ai rien fait. Mais si on m'a pris, par exemple, je prends le cas des squatters, dont on parlera plus longuement avec toi, Caro, qui a vécu l'histoire de Pile de Dain. Je suis squatter, j'étais ramassée le matin, les flics arrivent à 6h du matin, me prennent dans mon lit, et moi je dis non, je ne suis pas squatter.
Alors là, le délit est constaté, en fait.
Donc,
il ne suffit pas de nier les faits dans la mesure où tu occupes un appartement dont tu n'es pas légalement locataire, et contre la volonté du propriétaire ou de la régie, on peut dire que le délit est constaté.
Donc en fait, le flagrant délit, dès qu'il y a flagrant délit, il y a reconnaissance des faits. On mettra toujours le flagrant délit devant les yeux, non ?
Bon, on pourrait imaginer certaines situations où le flagrant délit ne prouve pas nécessairement la commission de l'infraction. Dans certains cas de vol à l'étalage qui sont douteux, quand la personne se fait arrêter alors qu'elle est encore dans le magasin, par exemple. On peut imaginer, bon, maintenant je n'ai pas des exemples qui me viennent par la tête, mais on peut imaginer des situations où le flagrant délit laisse place à l'interprétation.
Je l'ai mis dans mon sac, mais je voulais le payer, quelque chose de genre.
Voilà, par exemple. Bon, il faut dire que ce système de défense n'a plus grande efficacité dans la pratique, mais c'est un exemple où on pourrait essayer de plaider un acquittement devant le tribunal de police si d'autres éléments tendraient à venir corroborer les faits. Par exemple, si tu as dans ton porte-monnaie suffisamment d'argent pour payer la marchandise.
Mmh. D'accord. Bien. Alors, comme on voit, cette ordonnance de condamnation, à mon avis, elle a beaucoup de points négatifs, de criminaliser des petits délits et, disons, de les rendre justiciables et de faire que la population des gens condamnés a l'air d'augmenter. Je vous rappelle que vous pouvez téléphoner au 40 51 41 023 depuis la Suisse si vous avez vous-même des questions à poser à la justice.
Quelle nuit imprévue, parfaite. faite pour mes allées. De la gare, le train claque ses portières, un bébé bâtard traverse les frontières de pays sans maison ni lumière, la mer plonge dans l'oubli.
Bien, alors en tout cas, ce qu'on a pu voir lire dans les journaux, c'est que cette ordonnance de condamnation, elle a permis de condamner des squatteurs, ce qui avait été assez rare auparavant. Les gens étaient inculpés de violation de domicile, mais pour l'instant, il n'y en avait aucun ou autre. Je crois qu'il y en avait eu un, une seule fois, qui avait eu une condamnation de prison. Alors cette fois-ci, dans le cas de l'évacuation du fameux squat genevois, le Conseil général, il y a eu des condamnations grâce à cette ordonnance de condamnation. Alors toi, tu étais dans l'histoire, tu n'as pas été condamné toi-même, je crois que tu as vécu l'histoire de très près. Tu veux nous raconter un peu comment se sont passées cette évacuation et cette condamnation. Qu'est-ce qu'il y a eu comme condamnation?
Alors, l'évacuation s'est passée d'une façon très rapide. Un matin, il y a eu une centaine de flics qui sont entrés dans la maison. Ils nous ont sorti des lits. On a été fouillés corporellement. Ils nous ont embarqués à Karlvogt. Et bon, on a passé la journée à répondre aux questions concernant la maison occupée. Mais aussi, quelques personnes ont été interrogées sur ce qui était à l'époque... on en parlait beaucoup, c'était les cellules autonomes. Ensuite, on a passé devant l'appareil de photo des flics. On a dû donner nos empreintes et environ 8 heures plus tard, la plupart d'entre nous a été relâchés. Mais 3 personnes ont été amenées à Chandolon. Ils ont passé la nuit là-bas. Ils ont passé devant le juge d'instruction et ils ont été condamnés de 10 à 20 jours pour violation de domicile avec 3 ans de sursis. Il y a eu aussi une autre personne qui était juste là pour une nuit, un ami de France, qui avait même son billet de retour comme preuve comme quoi il n'habitait pas à la maison. Lui, en tant qu'étranger, il a été expulsé pour violation de domicile pour 2 ans. Il ne peut plus retourner en Suisse.
Donc là, 3 personnes ont donc été condamnées directement par le juge d'instruction la première séance.
Oui.
Est-ce qu'il y avait des avocats dans ce cas-là?
Non, il n'y avait eu aucun avocat. 2 personnes ont appris après le jugement qui était leur droit pendant le jugement. L'autre personne, elle a eu le droit de lire le petit paragraphe avant qu'elle ait été jugée, mais bon, elle n'a rien pu faire non plus. Et ça s'est passé très vite.
Mais ça se passe, je pense qu'on t'a raconté. C'est-à-dire que le juge dit, bon, monsieur, madame, je vais vous juger par ordonnance de condamnation. Voilà quel sera votre jugement. Comment ça se passe devant le juge? Est-ce que le juge avertit qu'il va y avoir un jugement ou comment?
D'après ce que je sais, il n'a pas averti du tout.
Donc il écoute et puis après il dit, voilà, vous êtes condamné à ça.
Ouais.
Et donc il y a eu des peines assez dures, puisqu'il y a eu jusqu'à 20 jours de prison, c'est ça?
C'est ça, sur 3 ans, justement, c'est assez long quand même comme période pour une violation de domicile dans une maison qui était quand même habitée pendant 2 ans et demi, et puis on a été évacué sans aucun avertissement, et le prétexte pour ces jugements, c'était la récidive qui n'était pas... Pour tous les 3 personnes, c'était pas le cas pour tous les 3 personnes.
Donc pour certains, c'était la première fois qu'ils squattaient.
Pour une personne, c'était la première fois qu'elle était présente pendant une évacuation.
Mmh. De toute façon, le terme récidive pour des squatteurs, c'est assez bizarre, parce que c'est évident que tant qu'on n'a pas de logement, on va réoccuper, non?
Oui, il y a aussi de ça, mais Je pense que c'était surtout un peu un acte pour nos intimités, prendre trois personnes, puis ouais, leur donner des peines pour nous montrer qu'avec nous, ça se passerait la même chose si on occupe tout de suite.
Donc en fait, c'est une incitation, c'est un... Comment je dirais un, c'est une... Je trouve pas le mot. C'est un c'est quelque chose qui décourage les prochains squats. Vous avez peur maintenant de squatter parce que vous savez que vous risquez cette ordonnance de condamnation.
Peur, ouais, un peu. Disons, je veux dire, c'était les menaces qu'on a entendues en sortant de Karl Vogt. Si vous occupez tout de suite, vous finirez à Karl Vogt et ça passerait la même chose pour tout le monde.
Et justement, par rapport à ces ordonnances, est-ce qu'il doit y avoir plainte? Est-ce que la personne est poursuivie d'office ou est-ce qu'elle est poursuivie que sur plainte? Est-ce qu'elle peut être condamnée s'il n'y a pas de plainte?
Alors, elle ne peut pas être condamnée s'il n'y a pas de plainte pour des délits qui se poursuivent sur plainte, effectivement. Mm-hmm. Donc ça, c'est logique. Il n'y a pas de poursuite pénale possible sans plainte pénale pour des délits qui doivent être poursuivis sur plainte. Mmh. Et c'est le cas, je crois, de la violation de domicile, en plus.
Oui.
En tout cas, le moment quand la police a débarqué dans la maison, il n'y avait aucune plainte signée par le propriétaire. Et puis, les flics ne savaient pas non plus de mandat de nous amener au poste.
Justement, là, d'ailleurs, il y a tout un autre débat, mais qui est aussi intéressant à commencer, c'est le problème des squatters, parce qu'en fait, on considère la police et la justice ne considèrent pas que vous êtes chez vous.
Si, à quelque part, ils considèrent quand même qu'on est chez nous.